composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller. Zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.
Nous arrivons bientôt en fin de direct. Bonjour. Et avec la dernière thématique de la journée, on continue à parler réduction de déchets et en particulier de déchets organiques. En parlant d'un geste qui commence à rentrer progressivement dans les esprits et dans les maisons, le compostage. Alors encore victime de quelques idées reçues, ah c'est compliqué, ça prend du temps, il faut une maison et un jardin, ça attire les bestioles, ça sent pas bon. Le compostage est pourtant un moyen efficace et peu coûteux de réduire le volume des déchets organiques jetés dans les poubelles. Et le tout pour produire un engrais bon marché et de bonne qualité. Alors, bah, nos invités ont tous passé le cap, individuellement, collectivement et même au niveau professionnel. Ils vont nous parler de leurs expériences respectives. Et donc, pour en parler, bah, je vous présente donc Florie Miard. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, à côté, nous avons un groupe de 4 personnes qui pratiquent le compostage collectif dans leurs résidences respectives. Donc, on a Monsieur Visonblin, Souleymane Bakayoko, Françoise Janin, Monsieur Leclerc. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et ensuite, on terminera avec Monsieur Boulet, qui est boulanger à Candé-sur-Beuvron et qui a mis en place un système de compostage interprofessionnel.
Bonjour.
Voilà. Alors, avant qu'on s'intéresse un petit peu à vos expériences personnelles, est-ce que quelqu'un accepterait de nous expliquer c'est quoi du compost et comment on le fabrique, ce compost ?
Souleymane Bakayoko, gardien sur le secteur Langevin, Weimar, Ampère et Buffon. Donc, faut dire que dans nos zones urbaines sensibles, il fallait d'abord expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que le compostage. Donc, il fallait m'y prendre de manière plus simple et plus rapide, en leur faisant comprendre que nous essayons de faire en sorte que nous puissions donner une seconde vie à nos matières organiques à travers le compostage, ce qui a d'abord entraîné une curiosité et par la suite un intérêt. Donc nous avons réussi à fédérer des personnes de divers horizons vers le compostage.
D'accord. Alors comment est-ce que vous l'avez expliqué ce que c'était que le compost ?
En fait, il fallait utiliser des termes très simples. Leur dire tout simplement que plutôt que de gaspiller de la nourriture, de le mettre dans un bac que nous a mis à disposition Fanny de Valeco, qui est une dame très dynamique et très engagée, et ce qui nous a permis de faire en sorte que nous puissions fédérer toutes ces populations-là autour du compostage.
D'accord. Florie, vous, comment vous en parleriez ça du compost ? C'est quoi le compost ?
Le compost, c'est en fait la dégradation de la matière organique, donc principalement les résidus de cuisine, tout ce qui va être le reste des légumes, principalement légumes, qui va se décomposer et qui pourra contribuer à faire du terreau ou du compost, donc pour mettre au jardin, pour faire un enrichissement de la terre.
Alors, respectivement, vous, qu'est-ce que vous y mettez dans votre compost, tout cela ? Monsieur Bakayoko, qu'est-ce que vous y mettez dans le compost ?
Dans nos composts, sur la rue Langevin, c'est des restes de nourriture, tout ce qui est matière organique.
D'accord.
C'est-à-dire que dès l'instant où nous constatons qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire un tri réel, des matières qui peuvent se décomposer facilement dans nos composts, nous essayons de faire un rappel, c'est-à-dire que nous les approchons et nous leur expliquons ce qu'il faut mettre dans le compost de sorte à ce que ça puisse se décomposer plus facilement.
D'accord. Monsieur Visonblin, je voyais réagir. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre compost ?
Alors nous, dans notre compost...
Tournez bien le micro, prenez bien le micro. Voilà.
Nous, dans le compost, c'est principalement donc les déchets de fruits et de légumes et à l'occasion, quelques petits os de poulet ou autre, mais c'est beaucoup plus... Enfin, Fanny nous dit que... voilà, parce que ça, enfin, sur le site où je suis, le Ruelle Fred Alou, c'est une petite copropriété. Avec une de mes voisines, là, on vient de décider de mettre à part les os des côtes de porc, poulet, dans un endroit à part qui avant, nos ancêtres mettaient aussi ce qu'on appelait les tas de fumier, ils mettaient tout. Mais là, dans le bac de compostage, bon, c'est quand même déconseillé parce que c'est beaucoup plus long. Les vers s'attaquent pas, enfin, il y a des petites bêtes qui vont s'attaquer à la viande, mais pas réellement aux os et tout ça, quoi. Donc sinon, il ne faut pas oublier qu'on ne met pas que les déchets. À chaque fois que l'on met, que l'on vide un seau, ce qu'on appelle notre petit seau bio, où on récupère nos épluchures de légumes d'hiver, donc on met dans le bac à compost. Et à côté, donc, nous avons un autre bac qui s'appelle un bac à broyat. Et c'est là, il faut mettre une pellicule fine de broyat ou de feuilles dessus. Voilà, c'est des couches alternatives comme ça. Parce que sinon, ça pourrit sur place. Oui. S'il n'y a pas le broyat, il n'y a pas de compost. Hein.
D'accord.
La donc nourriture, ça ne se décompose pas tout seul. Ça moisit, ça pourrit. Sinon.
D'accord.
Donc il faut une feuille sèche, enfin une couche sèche dessus pour que ça puisse faire son effet.
Alors, vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Janin, je vous écoute. Rapprochez-vous bien
oui,
du micro.
Bonjour. Je voulais rajouter que tout ce qui est viande, os, bon, c'est pas très recommandé parce que effectivement, vous avez dit c'est long à décomposer, mais d'autre part, ça peut attirer des nuisibles, genre petits rongeurs, etc. Alors donc. Et pour éviter ces petits rongeurs, nous, c'est ce qu'on a fait sur notre site. Nous avons installé avec Fanny des grillages sous, parce qu'on avait, on n'a pas su déterminer quel genre de nuisibles visitaient.
Vous aviez des visiteurs.
Voilà, et ça se voyait. Hein, la terre était soulevée, il y avait des trous dans le compost. Enfin, bon,
c'est
voilà.
Bien parce que normalement, la terre, avec le pic, il faut la soulever et tout ça.
Ah ben là, c'était super. On pouvait prendre la terre, elle était bien, bien émiettée.
Sur notre site, on n'a pas ce problème-là, mais on ne met pas d'eau. Ça.
Bon, alors donc, si vous ne mettez pas d'eau, ça réduit le problème.
Bon, on reparlera un petit peu de votre démarche collective à tous les quatre. Vous avez cité le nom de Fanny de Valeco. On précisera un petit peu son rôle après. Moi, je voudrais d'abord qu'on commence à s'intéresser à vous, Florimière, qui avait une pratique individuelle en appartement.
Alors, on a commencé en appartement il y a à peu près 4 ou 5 ans. On a fait le choix de mettre en place un lombricompost.
D'accord.
Donc, grâce à Valeco, en fait, on a acquis un lombricomposteur. Donc c'est un système de bac à plusieurs étages et où on nous fournit les verres. Donc nous, il n'y a plus qu'à mettre la matière, les verres et un petit peu de journal, un petit peu de carton parce qu'il faut apporter un petit peu de matière carbonée pour absorber l'humidité qu'il y a en trop. Et après, ça se fait tout seul. C'est les vers qui travaillent.
D'accord.
Voilà.
Alors, sur ce lombricomposteur, donc vous avez un seau, en gros, alors je résume, hein, je caricature, mm-hmm. Vous avez un seau avec des vers de terre dans votre maison. Ça va, ça se passe bien, la cohabitation?
Oui, alors, au départ, c'était dans la maison, mais dans la pièce d'entrée, en fait. Et maintenant, on vit en maison. Et donc là, on l'a mis dans la cave. Donc, c'est une température constante, une humidité constante. Donc, ce n'est pas directement dans l'habitat.
Non, je comprends bien. Je faisais un petit peu de provocation.
Mais,
parce que
ça se pratique.
Oui, mais c'est quelque chose qui est quand même sujet un petit peu à idées reçues. Est-ce que vous entendez, vous, des réflexions autour de vous par rapport à ça, non?
Il y a eu pas mal d'appréhensions de nos amis, par exemple, qui nous demandaient « mais comment ça se fait ? Vous devez avoir des mouches ou des odeurs. » Ça peut arriver d'avoir quelques petites mouches. C'est rien d'inquiétant. Il suffit en fait de rajouter un peu de carton ou de journal pour absorber l'humidité. Et tout se régule très rapidement.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous y mettez dans ce lombricomposteur ?
Dans mes déchets de cuisine, en fait, je mets pratiquement tout, sauf les épluchures d'oignons, de poireaux, de pommes de terre et de champignons. Parce
D'accord.
que les vers ne sont pas très adeptes, c'est un petit peu trop acide pour eux, je pense.
D'accord.
Et ça peut générer des champignons en plus. Donc ça, je le mets dans un autre seau qui va au compost.
D'accord, parce que vous avez un compost aussi.
Voilà.
D'accord. Il y a un intérêt d'avoir les deux dans chez soi.
Oui, alors... Le grand intérêt du lombricompost, c'est de récolter en fait ce qu'on appelle le jus du lombricompostage, qui en fait est un fertilisant qui est très très riche. Et on le dilue, en fait, on prend un litre de ce jus de verre dans 10 litres d'eau et j'arrose mes plantes avec et elles se portent comme un charme.
D'accord. Donc, parce qu'il y a de l'azote, c'est ça, dedans ?
Il y a beaucoup de matière, en fait, et... il y a de l'azote, il y a du carbone, il y a plein de choses de nutriments en fait pour les plantes qui fait que c'est parfait.
D'accord. Et à part ce liquide-là, est-ce que vous récupérez autre chose ?
Alors après, bien sûr, au fur et à mesure que la matière se décompose, que les vers ont fait leur action, comme il y a plusieurs niveaux dans le lombricompost, le premier niveau qu'on a mis, en fait, va être prêt quand on a vraiment une terre en fait qui s'est créée. Et donc là, une fois que c'est bon, eh bien, je le mets soit au pied de mes plantes, soit dans mon jardin. Ça me permet de mettre du terreau en fait à mes plantes.
Et en combien de temps on obtient du compost avec un lambricomposteur ?
Alors, j'ai cru comprendre que c'était rapide. C'est très variable suivant ce qu'on y met en fait. Mais il faut compter 6 mois, 1 an, grosso
D'accord.
modo.
Ce qui est à peu près similaire à ce qu'on trouverait dans un composteur classique ?
C'est un peu plus rapide, je pense.
Un peu plus rapide, d'accord. Très bien. Ben, je vous remercie.
Avec plaisir.
On revient vers vous, du coup. Peut-être qu'on peut redonner la parole à nos invités autour du compostage collectif. Est-ce que vous pouvez... on a compris, vous étiez dans une résidence privée, c'est ça, Monsieur Vison-Blin. Vous êtes dans
de l'habitat social.
Dans un, bailleur social.
Ce qui est plus intéressant chez nous, c'est que les gardiens vivent sur place. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a une inquiétude qui est soulignée, le gardien a les réponses sur place et accompagne le locataire dans son inquiétude.
D'accord.
Et donc, quand les questions sont posées, le gardien apporte les réponses sur place.
Et donc, du coup, vous, Madame Jeannin, Monsieur Leclerc, vous êtes dans une résidence privée, c'est ça ?
Voilà, privée, l'Ermitage, pour être plus précis, à la Chaussée Saint-Victor. En fait, ça a commencé en 2012 sur une copropriété qui compte 70 logements. Et comme il fallait s'inscrire auprès de Valeco, on a eu 15 foyers, l'inscription de 15 foyers, ce qui représente plus ou moins 20 personnes. Je voudrais revenir en fait sur le... Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas forcément évident pour l'installation, parce qu'en effet, qui dit copropriété dit avis de différentes personnes. Et nous, ça s'est fait tout simplement parce que, étant donné que c'était sur le territoire de la commune, bien que ça soit à proximité de la copropriété, et que l'installation était complètement gratuite dans la mesure où le terrain, on n'avait aucun frais et les fournitures étaient fournies par Valeco, je n'ai eu qu'à faire la présentation lors d'une assemblée générale, puisqu'à l'époque, j'étais président du conseil syndical.
Vous aviez peur qu'en tant que copropriété privée, des gens s'inquiètent d'un coût éventuel d'installation d'un composteur ?
Bonne question, ce n'est pas une peur. C'est-à-dire que je l'ai vérifié dans la mesure où le jour où j'ai fait la présentation et en faisant comprendre que de toute façon, ça allait se passer et c'était comme ça, qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? C'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure, mauvaises odeurs, les rats, les mouches, le vandalisme. Et je peux vous dire que en fait, aucune de ces appréhensions sont arrivées. Les odeurs, non. Les rats, Françoise a répondu tout à l'heure, il y en a eu, mais on a trouvé la solution. Il n'y a pas eu de vandalisme. Enfin bon, voilà, vous voyez, c'est là, pour le coup, on avait des gens qui avait une information par rapport à ces composteurs, mais plutôt une information avec idée reçue.
D'accord.
Voilà.
Et alors, du coup, dans votre résidence, comment s'organise le compostage, la collecte qui s'occupe du composteur, ce genre de choses, concrètement ?
Alors, au départ, c'est Fanny Groussin qui a pris contact, qui a demandé si ça nous intéressait. Donc moi, à l'époque, encore une fois, j'ai dit oui, OK. Elle m'a présenté le projet. Et comme elle s'engageait aussi à être au départ avec nous, à nous épauler, à nous guider, à nous former, ça s'est fait relativement facilement. Après, on a eu deux référents, Françoise et moi, parmi les 15 adhérents. Et c'était à nous de prendre le relais par rapport... un bac qui est plein, le fermer, passer sur un autre bac, annoncer qu'il y avait un bac qui était plein en compost mûr. Voilà, vous voyez, c'est un... Et ça, c'est... Et comment dire ? Disons que les gens qui se sont inscrits étaient volontaires, ça se passe très bien.
D'accord. Donc les gens gardent... Ils ont chacun son petit seau à la maison. On
voilà.
le remplit de déchets organiques. Et voilà. les gens, d'eux-mêmes, vont le vider dans le bac, dans le bon bac.
Tout à fait.
D'accord. Et après, la gestion du bac en lui-même, qui est-ce qui s'en occupe ? C'est vous, les référents ?
C'est nous. C'est Fanny, au début, passer pour voir si on faisait bien notre travail. Parce qu'en effet, à chaque dépôt, on conseille de remuer, de mettre, comme disait monsieur, une pelletée de broyat. Et je rajouterais, en fait, pour que ça marche, c'est un peu comme en amont, on dit que la monoculture, c'est pas terrible. Ben, dans un composteur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une énorme couche de gazon ou des épluchures de carottes. Ce qui fait la richesse et le bon fonctionnement d'un composteur, c'est le mélange.
Et c'est la variété de ce qu'on
met. Et la variété des matières organiques.
D'accord. Et donc, du coup, depuis 2012, c'est ça, vous avez 2012, installé
tout à fait. Ouais.
Quel bilan vous en faites de ce composteur-là ?
Un bilan plus que positif. Cette année, on a changé les bacs parce qu'ils étaient, un peu abîmés, quoi. Mais disons que c'est une usure normale. Ils ont été remplacés en partie par Valeco. Et mis à part ça, disons, c'est l'entretien, quoi. Ça roule très bien. Il y a une information au moment voulu, quand les bacs sont pleins, pour informer donc les habitants, parce qu'on ne s'arrête pas évidemment aux adhérents, on informe tout le monde, et les personnes qui veulent venir chercher leur compost viennent, et on est plutôt en surproduction qu'en récession.
Le compost, il sert à qui et il sert à quoi après ? Il va dans les jardins, il va dans les terrasses ?
Pour les jardinières, parce qu'à l'Ermitage, il n'y a pas de jardin.
D'accord.
Donc, c'est pour les adhérents et les utilisateurs, ça va essentiellement dans les jardinières.
D'accord.
Et ça marche bien. À mélanger avec la terre, avec l'autre terre.
D'accord. Alors, vous, M. Bakayoko, comme la dimension collective dans votre résidence, qui est une résidence à un bailleur social,
oui.
Comment ça se passe, la gestion collective de ce composteur ? Est-ce que c'est vous qui êtes au centre, ou est-ce que les gens ont pris un peu les choses en main ?
Dès les premiers instants, Fanny savait qu'elle pouvait s'appuyer sur un référent sur place, qui est le gardien. Et sachant que je connais tous mes locataires, donc il y a eu du porte-à-porte, de sorte à pouvoir expliquer à nos locataires comment se faisait le compostage. Et ça nous a permis aussi, avec cette expérience sur la rue Langevin, de constater que le compost peut être aussi un facteur de rapprochement. Parce qu'on avait certains locataires qui étaient un peu plus réticents vis-à-vis l'un de l'autre. Et ça nous a permis aussi de faire en sorte que cela puisse se rapprocher et d'avoir un projet en commun qu'est le compostage.
Est-ce que tous les locataires participent au composteur ou c'est quelques personnes dans l'immeuble ?
En fait, c'est au fur et à mesure que nous avons réussi à fédérer un maximum de personnes. Et le porte-à-porte nous a permis dans un premier temps de fédérer pas mal de personnes. Et lorsque nous avons engagé totalement le processus avec une seconde couche que nous avons ajoutée au processus, à savoir faire en sorte que derrière notre compost, nous puissions faire un petit jardin qui puisse permettre aux gens de voir ce que pouvait donner ce qu'ils ont mis en place. Donc nous avons planté des légumes qu'ils peuvent récolter gratuitement sur place. Et donc ça leur a permis de savoir ce que peut donner le compost dans lequel ils se sont engagés.
Oui, c'est une mise en application de voilà. L'intérêt du composteur.
Voilà, donc ils ont pu voir directement, de manière matérielle, ce que pouvait apporter le processus de compostage.
D'accord. Les légumes poussent bien chez vous ?
Très bien, très ouais. bien. Et ils viennent le récolter gratuitement et vraiment ça se passe bien. Et nous, cette expérience-là sur le secteur de Langevin a été pour nous un constat de savoir que vraiment le compostage peut être un facteur de rapprochement, puisque nous avons des populations de différents horizons qui étaient dans un premier temps réticents du fait qu'ils ne savaient pas réellement ce qu'était le compostage. Donc j'ai eu le temps de leur expliquer que c'est un processus biologique dans lequel nous donnons une seconde vie à nos matières organiques.
Quel volume de déchets organiques vous mettez dans les composteurs ? Est-ce que tous les ans, est-ce que vous remplissez les composteurs ? Ils font quelle taille d'ailleurs ?
En fait, nous, comme nous sommes un bailleur social, ce qui fait que bon, chaque gardien a un maximum de 120 logements, 125 oui. logements à gérer. Donc une grande population. Et nous avons un intervalle de 6 mois. C'est-à-dire que nous vidons en intervalle de 6 mois les bacs que nous mettons à disposition Valeco.
D'accord. Donc en 6 mois, vous remplissez un bac avec 125 foyers.
Oui.
D'accord. Oui. Donc c'est un volume qui est quand même
oui,
important.
Oui, ce sont de grandes familles que nous avons sur le secteur Langevin.
D'accord.
Dont je m'occupe de Buffon, Langevin, Ampère et Veillemar.
D'accord. Oui, donc c'est voilà, vous produisez. En tout cas, le volume de déchets organiques qui ne va pas dans les poubelles est important quand même.
Voilà, donc nous constatons sur place que nous avons pas mal de déchets organiques qui devaient être jetés qui sont utilisés dans nos composts.
D'accord. Très bien. Alors, monsieur Visamblin, vous, pourquoi le compostage
Alors, déjà, moi, je vais, en fin de compte, avec donc, les différents témoignages qu'on vient d'entendre, en fin de compte, moi, je suis entre les deux. Voilà, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que nous sommes une petite copropriété qui existe depuis 2012. Et nous sommes que des propriétaires. Enfin, il y a 8 logements qui ont été achetés. C'est dans la rue Alfred Alloux, pour préciser, juste en face de la passerelle. Et nous avons quelques locataires. Donc au départ, il y avait un propriétaire principal qui a vendu cette bâtisse en plusieurs logements. Il se trouve que nous sommes des célibataires, hommes et femmes. Et moi, je fais partie du conseil syndical, sur l'agence Citia rue des Orfèvres. Mm-hmm. Voilà, donc on a un conseil syndical et je suis conseiller syndical. Et au bout de 3 ans, donc j'ai ma voisine, Madame Ciblot, qui est arrivée et qui est beaucoup dans le recyclage, enfin donc dans les produits bio et tout ça. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas mettre un bac de compost. Alors nous, ça a été beaucoup plus facile.
Vous connaissiez le principe,
J'ai un certain âge, mais je connaissais le principe du tas de fumier. Mais voilà, donc là, mais on ne peut plus. Maintenant, c'est mis dans des bacs, quoi. Parce que le tas de fumier, justement, à l'air libre, ça peut occasionner tous les petits dégâts qui viennent d'être. Ou les odeurs citées par mes voisins de gauche tout à l'heure. Donc, nous, ça a été beaucoup plus facile parce que moi, j'ai proposé l'idée donc, à une assemblée générale. Mais déjà, tous les copropriétaires étaient d'accord. Et donc, nous avons des espaces communs. Donc, nous avons déterminé un espace commun. Donc, nous n'avons que 2 bacs. Un bac qui s'appelle donc le bac à broyat, où on amène la matière sèche, et le bac de compost, où on amène les déchets. Alors, nous, c'est quand même à moindre échelle. Donc, il faut bien, effectivement, quand Fanny nous vient proposer et mettre le site en place, il faut un référent du site, parce qu'il... Au début, ils passent que tous les 15 jours pour vérifier si ça fonctionne bien, comme disaient monsieur et madame. Et après, il faut quand même un référent pour vérifier, parce que parfois, il y a des gens qui jettent le seau bio, mais qui n'étalent pas leurs déchets, et il faut aller mettre les feuilles. Et c'est là qu'on risque de voir apparaître des mouches, des choses comme ça. Mais enfin bon, c'est en extérieur. Et moi, à l'Assemblée générale, ça a été adopté, mais vu que c'était gratuit, bien sûr, aussi, mais il n'y a pas eu les diverses questions que se sont posées, vous, monsieur et madame, c'est l'Ermitage, c'est ça? Nous, les gens déjà à qui j'ai proposé étaient déjà d'accord, et l'avantage, c'est qu'ils sont tous, dans le recyclage, oui.
D'un état d'esprit, quoi.
Voilà.
Et du coup, la gestion au quotidien, comment ça se passe?
Nous, comme ça, à moindre échelle, parce qu'en fin de compte, on n'est que 4 ou 5. Donc après, il faut des adhérents. Il y a une charte à remplir qui est remise à Valeco, bien sûr, par lequel on s'engage. Donc on reçoit le seau bio et puis les petits matériaux pour mettre au niveau du broyat. Et puis, bon, c'est un engagement. Enfin, c'est surtout le référent, déjà, qui s'engage à voir si le site fonctionne bien. Nous, on sait qu'avec Fanny Groussin de Valeco, donc nous, on s'autogère, parce qu'il y a des sites où il faut amener du broyat. Ouais. Donc nous, malgré la petite copropriété, j'ai un excédent de broyat, de feuilles, dans des gros sacs qui peuvent aussi nous fournir. Et nous, la première récolte, c'est faite qu'au bout de 2 ans, parce qu'on n'est que 5 ou 6 à D'accord. déposer.
Donc le bac se remplit moins vite.
Et puis, donc théoriquement, pour inaugurer ces bacs, il est organisé des petits apéros compost. Oui. Mais bon, c'est très difficile de réunir même 5-6 voisins en même temps pour le faire, pour récolter. Donc, enfin, on parle de compost, on récupère le terreau, parce que ça vous fait du terreau. Vous avez une terre très, très noire. Moi, ça fait à peu près 1 mètre, pas tout à fait 1 mètre cube. Enfin, le bac à broyat fait 1 mètre cube, à peu près. Et le composteur, un petit peu moins, je pense, par rapport aux dimensions. Mais j'ai récupéré, à force que ça soit tassé, j'ai récupéré plus de 3 grosses brouettes. que j'ai étalé dans tout le jardin, les parterres de fleurs et tout ça. Et nous avons chaque personne qui vient nous voir et tout ça. Donc moi, j'ai fait le premier étalement il y a l'année dernière. Nous avons des plantes formidables. Là, j'ai des tomates cerises qui sont toujours en train de mûrir et tout ça. On a eu des aubergines, les fleurs. On n'a aucun engrais, on n'a rien. On recouvre de feuilles, là. Tout est naturel. On trouve des vers de terre partout. Ça fonctionne super bien. Voilà. Mais à moindre échelle, par contre.
Oui.
Après. Mais je vais souvent quand même vérifier, parce que moi je vais d'un moins un seau par semaine de déchets, puisque, alors juste sans faire de pub, je suis abonné au jardin de Cocagne avec plusieurs, donc du coup on a des déchets de légumes, donc
oui.
Beaucoup de déchets de légumes, on va au poste, j'y vais au moins une fois par semaine, donc je surveille,
D'accord.
Et ça fonctionne très très bien. Et Valeco ne passe plus que, voire une fois tous les mois ou tous les deux mois, parce qu'ils savent que le site est bien entretenu et bien géré.
D'accord. Merci pour ce témoignage. Donc on voit, vous parliez d'échelle en effet, mais c'est l'intérêt du compostage, c'est qu'il n'y a pas d'échelle adaptée pour le compostage. Toutes les échelles sont possibles, tout est réalisable. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, rajouter très rapidement que par rapport aux résultats positifs qu'on a observés depuis la création de cette récupération, il y a eu une autre série de composteurs qui ont été installés dans une autre copropriété qui fait toujours partie de l'Ermitage. Et qui fonctionne bien, et que des autres propriétaires, d'autres copropriétés qui n'en ont pas, sont actuellement demandeurs.
D'accord. Oui, donc vous avez fait tâche d'huile un petit peu sur la résidence.
Il y a une grosse demande, et Valeco a du mal
à suivre.
Et l'année dernière, ou il y a deux ans, donc ils ont mis aussi à disposition donc aux particuliers leur bac de compostage. Et du coup, Fanny était moins disponible parce qu'il y avait une grosse demande de particuliers au niveau de... Alors, je ne me rappelle plus s'ils étaient gratuits ou je crois, la somme modique de 10 euros. Maintenant, je crois que c'est 30. Mais quand il y a eu... Il me semble qu'au début, c'était la gratuité. Il y a eu une grosse demande par Internet. Et je pense que sur Blois... Moi, il me semble que j'étais le 9e site ou le 10e site sur Blois qui se mettait en place. Et puis, ça se développe.
Oui,
Blois, et je pense que les habitants sont quand même assez participatifs et pour la revalorisation des déchets. Je pense qu'il y a un... Ça a bien pris, quoi.
Et aussi sur le secteur Langevin avec Terre de Loire Habitat, moi, le gardien sur place, j'ai reçu la visite des autres gardiens de d'autres bailleurs qui venaient s'imprégner de l'expérience qui a eu lieu sur le secteur Langevin et qui a bien marché. Donc j'ai reçu toute une équipe qui était venue un peu s'imprégner de mon expérience sur le terrain.
D'accord. Une fois que c'est mis en place, en effet, ça parle, c'est une expérience qui permet de...
C'est du concret.
Voilà, une expérience concrète, en effet, qui permet de faire connaître le principe et d'aller plus loin.
En plus, nous, notre site, il est visible de la rue, et ça a été installé de façon que ça soit agréable à regarder. Donc une cour avec des gravillons, les deux bacs sont intégrés dans deux parterres de fleurs, mais bien séparés, et les gens qui passent posent des questions et nous demandent même s'ils peuvent venir. Alors bon, par contre, nous, là, on a un refus de certains... copropriétaire. On a un petit jeune qui habite juste derrière dans la résidence Brosseillande. Il veut venir vider son seau. Et en fin de compte, je pense que Fanny va faire un point là-bas pour mettre un autre site. Parce que nous, là où il y a les bacs, un ou deux copropriétaires refusent de voir rentrer quand même, parce que bon, c'est quand même privé. Et de voir quelqu'un d'autre amener. Moi, j'ai dit oui pour dépanner ce jeune homme, mais ça a tenu qu'à moi. Quoi. Mais il y a une demande des passants. Les passants demandent qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut... Voilà, il y a un intérêt des gens.
D'accord. Merci pour vos témoignages. On va se tourner vers Monsieur Boulet. Rapprochez-vous un petit peu. N'hésitez pas à relever un petit peu le micro aussi pour qu'on vous entende bien à la radio. Juste le micro, regardez. Hop, vous avez une petite... Voilà. Très bien. Alors vous êtes à une autre échelle, puisque vous êtes à une échelle professionnelle.
C'est ça, exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la démarche dans laquelle vous êtes engagé déjà ?
La démarche a été assez simple à la base, c'est-à-dire qu'il fallait réduire nos déchets. On est parti d'un constat que plus notre structure grossissait, plus on avait de déchets forcément. Et au bout d'un moment, on a eu un retour au niveau de Valeco, comme quoi on avait trop de déchets.
D'accord.
Et qu'il fallait à un moment donné payer une taxe supplémentaire sur nos bacs à poubelles, tout simplement. Donc on est parti d'un constat simple, s'il fallait payer une taxe pour venir récupérer ces déchets, Valeco allait d'ailleurs payer de l'incinération, allait payer un camion poubelle à 80, je crois que ça consomme 80 litres au 100 km/h,
ouais.
Un camion poubelle. Donc on est parti de là en se disant pourquoi ne pas investir avec Valeco dans des bacs de compost de façon à pouvoir baisser notre quantité de déchets et que Valeco s'y retrouve aussi d'ailleurs puisqu'ils aient moins à transporter et à incinérer sur Blois. Donc en discutant un peu avec Fanny, donc toujours, on a réussi à s'entendre sur le fait que Valeco nous fournissait donc, tout le matériel nécessaire et qu'on n'allait pas être que la boulangerie donc, de Candé à travailler sur ce système, mais qu'on allait impliquer aussi tous les autres commerçants de la place des Cèdres à Candé.
D'accord. Alors donc ça, c'est un système de compostage qui ne vous concerne pas que vous.
Non.
Quels sont les autres commerces qui sont impliqués dans cette démarche ?
À côté, il y a une boucherie charcuterie, qui est la charcuterie Bobo à Candé. À côté, il y a un salon de coiffure. Et il y avait un restaurant et une épicerie.
D'accord.
Ça alors, fait 5 commerces.
Moi, je trouve étonnant. C'est-à-dire que là, on parle d'épluchure de légumes et de broyats. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre composteur ?
Alors, nous, c'est le même principe que vous. Mais par contre, il y a des volumes qui sont démesurés par rapport à ce que vous faites. Juste un exemple. Par exemple, nous, sur une année, on va passer 4 tonnes de fraises. Donc, qui dit 4 tonnes de fraises, dit des queues de fraises et des fraises qui font forcément plus consommables. Donc, on va mettre dans le compost. Donc la problématique, ce n'est pas de savoir si ça va aller dans le compost, c'est de savoir comment réguler cette quantité qui va arriver d'un coup. Nous, juste tout seul, la boulangerie, on met à peu près par jour 30 litres, entre 30 et 50 litres de compost dedans.
D'accord. Donc encore une fois, sur des fruits, des légumes ?
Alors nous, essentiellement, ça va être des épluchures de fruits, des épluchures de pommes. Ça va être des coquilles d'œufs au début qu'on mettait, mais on arrivait à des quantités tellement grosses qu'on a arrêté de mettre trop de coquilles d'œufs, parce qu'on les retrouve à la fin au niveau du compost. On met les cartons, les alvéoles d'œufs à l'intérieur. Donc ça nous a permis aussi de baisser un peu les cartons. Et donc tous ces produits, on met aussi du marc de café. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre du pain dur. On aurait bien aimé, mais on peut pas mettre du pain dur.
Alors vous pouvez dire pourquoi on ne peut pas mettre de pain dur dans le...
Ça va attirer les souris.
Voilà, oui. D'accord.
Ça, un tout petit peu, ça va aller. Ouais. Si on en met beaucoup... C'est toujours pareil, nous, si on nous dit on en met, on va en mettre 40-50 kilos dans la journée.
Ouais.
Donc si on en met 50 kilos, ça ne va pas avoir le temps de se décomposer. Donc ça va attirer tout ce qui va être sourire.
D'accord.
Donc là, l'objectif, c'était d'arriver à réguler en fait, l'ensemble des commerces et de se dire sur certains produits, on met au maximum et sur d'autres, on ne met pas du tout. Si on commence à expliquer à certains qu'on peut mettre qu'un petit peu et qu'il faut faire attention, ce n'est pas possible. Puisqu'on a affaire à des salariés, on a affaire à un ensemble de structures professionnelles. Et si on commence à rentrer, c'est trop compliqué. Donc on est parti sur le fait d'autoriser certains produits et d'en interdire d'autres.
Alors vous, on voit bien ce que vous y mettez, vous nous l'avez expliqué, ouais. Mais le salon de coiffure, qu'est-ce qu'il met dans le compost ?
Que des cheveux.
D'accord, donc on peut composter...
Oui, c'est minéral.
D'accord.
Les ongles aussi.
Voilà. Okay.
Comme
donc, par exemple, quand le salon de coiffure, ils ne viennent pas tous les jours amener des cheveux. Ouais. Donc ils vont venir, par exemple, une fois tous les 15 jours. Mais quand ils amènent des cheveux, ils amènent 20 cm de cheveux sur le compost.
D'accord.
Et vos bacs, ils sont de quelle grandeur ?
Alors ça doit être les mêmes bacs que vous, c'est-à-dire qu'ils doivent faire 4 mètres cubes, 1 mètre de haut, 2 mètres par 2 mètres.
Oh non, c'est plus petit, je pense. Hein.
Ah non, ils sont plus petits les vôtres. Petits,
ah, oui. Parce qu'il me semble que les bacs, c'est alors 400 ou 800 litres.
Ah oui.
Je crois qu'on pense que
le bac à broyat, il doit faire à peu près 1,20 m sur 1,20 m sur 80 cm d'hauteur. Et le bac de compost, il est à peu près, si je dis haut comme ça, les auditeurs.
1,50 m.
Donc, non, même pas. 1,20 m, c'est en biseau devant. Et il doit faire à peu près 80 cm
ouais,
carrés.
C'est ça.
Voilà.
Donc on doit
parce
être
que
sur
nous, moi, 30 cm de cheveux, c'est pas la peine.
Oui, donc grand comme la table, c'est-à-dire on a un cercle de facilement. Ouais,
moi, il fait 2 mètres par 2 mètres et 1,20 m, 1,30 m d'eau.
Petit,
d'accord.
Il faut savoir que les premières fois, quand on y mettait tout ce qu'on pouvait mettre, donc sans tri, enfin il y avait le tri, c'était tout ce qu'on pouvait mettre dans du compost, on remplissait un bac en un mois.
D'accord. Ah oui.
C'est 4-5 mètres cubes, donc ça fait, pour les auditeurs, ça fait un bac de poubelle, les gros bacs poubelles qu'on met tous les jours, enfin toutes les semaines aux éboueurs, ça faisait un bac par semaine en moins,
mais
juste
vous,
à la boulangerie.
Vous ne mettez que du déchet ? Vous ne mettez pas, comme nous, ce qu'on dit, le broyat ?
Alors, le broyat, au début, nous, on en avait un bac à broyat, de façon à mettre du broyat, mais à la place du broyat, on met du carton.
Mmh.
Et comme on passe,
parce que vous avez une...
800, entre 800 et 1200 œufs par semaine... Ça vous fait des alvéoles de
oui,
par 30,
oui,
vous voyez.
C'est très pratique.
Donc
pour
ça, on
les
déchire en
4
et on fait un niveau en fait, de carton. Mais on est arrivé avec trop de carton, trop d'œufs.
Ben oui.
Enfin,
le compost était déséquilibré, du coup.
Complètement. Trop okay. sec.
Et alors, du coup, le boucher, lui, qu'est-ce qu'il y met dans...
Alors, il ne peut pas mettre tout ce qui est produit carné, c'est interdit. Des os, c'est interdit. La viande, c'est interdit. Donc, il ne met que des épluchures au niveau des oignons, par exemple.
D'accord.
Voilà. Ou des poireaux quand il fait des plats cuisinés, ou des épluchures de carottes.
Ok. Alors. Donc là, on imagine bien les volumes. Chaque commerce dépose lui-même ses déchets.
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Et concrètement, ensuite, qui gère le compost ? Qui remue ? Comment ça s'organise ?
Chacun, quand on va déposer, on remue un petit peu.
C'est ce qu'il faut
faire. Nous, tout le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément remuer, puisque le bac se remplit tellement vite.
Ouais.
Que si on met la pince ou autre chose, on a des difficultés à mélanger. Donc, on remplit le bac. On le ferme.
Est-ce qu'il n'a pas le temps de se décomposer,
voilà. Donc on le ferme, on tourne sur 4 bacs. Et une fois que le 4e bac est plein, on re-remplit le premier. De toute façon, que ça se tasse.
Mmh.
Et comme ça, on peut remuer au fur et à mesure.
Donc là, vous avez 4 bacs de 1m20 sur 2 mètres
sur
2 mètres.
C'est ça. Et d'accord. On tourne comme ça sur 4 bacs. Et là, ça va faire plus d'un an maintenant qu'on est dessus. Et on n'a toujours pas pris le compost parce qu'en fait, on est sans cesse en train de les re-remplir.
D'accord.
Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de les remplir et puis de reprendre 4 autres bacs ou de reprendre 2 bacs.
D'accord.
Par contre,
d'accord.
Nous, dans tout ce qu'on a dit, il y a une chose aussi qui est importante parce que nous, on a parlé que de déchets, fruits, légumes et tout ça. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, les coquilles d'œufs, on nous les conseille aussi, mais pas.
On met un tout petit peu, mais on les retrouve à la fin.
Mais aussi pour les particuliers. Donc, coquilles d'œufs, mare de café.
Mare de café, aucun problème.
Sachets de thé aussi, les sachets de thé en papier.
Sachets en papier, sopalin.
Sopalin aussi, parce que bon, comme disait.
Flori.
Donc en fin de compte, dans nos petits seaux bio, en même temps, ça absorbe l'humidité et ça évite aussi d'émaner des odeurs. Bon, ça sent pas beaucoup, quoi. Mais voilà.
Alors, y a d'autres commerces, du coup, à Candé. Du coup, quand ils vous ont vu mettre ça en place, quels ont été là un peu leur retour, leur perception, un peu d'étonnement, de surprise.
C'est jamais facile à mettre en place parce qu'il y a toujours un intérêt économique derrière un commerce, bien évidemment. Donc quand on leur dit vous allez faire ça en plus de votre travail, c'est toujours compliqué. On a l'impression que ça fait un peu taxe supplémentaire, du travail supplémentaire. Mais quand on leur dit qu'ils n'auront pas d'augmentation au niveau de la taxe des ordures ménagères, ça passe tout de suite mieux.
Oui, donc c'était soit ça, soit payer l'enlèvement plus cher.
Oui, parce qu'il nous fallait des bacs supplémentaires.
D'autant plus que vous avez peut-être, je ne sais pas si c'était un calcul de votre part, mais c'est vrai que faire venir un camion supplémentaire, donc dépenser de l'essence pour retirer des ordures supplémentaires.
Pour les faire incinérer à Blois.
Il y a une espèce de cercle qui n'est pas très...
Il y a un impact carbone qui n'est pas négligeable non plus.
Il n'y a pas de cohérence sur l'ensemble, quoi.
Donc là, on est en train de calculer aujourd'hui comment réutiliser les coquilles d'œufs.
J'allais
on a toujours ce problème de coquilles d'œufs. Donc là, pareil, on est en train de discuter avec Fanny, trouver d'autres solutions. On a réussi à recycler maintenant les alvéoles à œufs en dessous. Celles qui sont plus sales, on les met dans le compost. Celles qui sont propres, on les redonne à notre producteur d'œufs à Courchevernie.
D'accord.
Par exemple,
Le producteur d'œufs, les coquilles, il ne peut pas les redonner aux poules parce qu'il leur en faut du calcaire.
Oui, mais non, il faut éviter ça parce qu'en fait, après, elles piquent leurs propres œufs. Donc voilà, c'est toujours très.
Enfin, c'est.
C'est toujours délicat.
Voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez labellisé Éco-Défi, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a une démarche globale environnementale, pas uniquement sur le compost. Mmh. Quelles sont les autres démarches environnementales que vous avez mises en place, vous et puis les commerces environnants ?
Alors, principalement, c'est réduction des déchets. L'Éco-Défi, c'est ça. Donc, ça peut être, par exemple, le réemploi, donc, comme je disais, des alvéoles d'œufs qu'on va redonner, des cajots qu'on va redonner, par exemple, à notre producteur de fraises. Mais ça va être aussi passer toutes les lampes de l'entreprise en LED. Ça va être une réduction de l'électricité au niveau du changement du type de four qu'on va avoir. Ça peut être l'utilisation, par exemple, des emballages au niveau du pain. Donc les gens viennent avec leur sac à pain, on leur met dedans, on leur donne pas d'emballage. Ça va être toutes ces petites choses qui vont faire que, mis bout à bout, ça va faire un réel impact au niveau de l'environnement.
Donc vous nous aviez dit que vous étiez dans un objectif de réduction de déchets.
Ouais.
Quels sont les résultats jusqu'à présent ?
On a réussi à baisser de 5 bacs, on est passé à 4 bacs par semaine.
Par semaine. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve dans vos bacs, là, les 4 bacs qui restent ?
Justement, c'est tout le problème, les bacs qui restent, c'est des cartons. Toujours ce problème de gros cartons, parce que nous, en tant qu'entreprise, on reçoit énormément de cartons. Donc là, on est en train de chercher un système de presse à carton. On mettra des cartons à l'intérieur, on fera des bottes. Donc ça, voilà, on est en train de voir. Bon, la machine,
parce que le carton, lui, peut se recycler à part dans les déchets tri.
Vous, en tant que, enfin, même moi, en tant que particulier, je vais au tri sélectif, je vais mettre mes cartons.
Mais en tant que professionnel, il faut payer.
Alors, déchetterie, il faudrait payer. Ouais. Déchetterie, nous, on n'a pas le droit d'y aller en tant que professionnel. Les déchetteries sont fermées.
Si vous moyen en finance.
Même pas interdit maintenant. Il faudrait qu'on aille à Blois, ouais. Donc à Candé, réduction carbone, zéro.
Donc, mais à Blois, si, vous pouvez.
Oui, il faudrait qu'on aille à Blois.
Ah, oui.
Mais on a une déchetterie à Candé-sur-Beuvron.
Je savais pas.
D'accord. Oui, donc,
voilà, ça, c'est un exemple.
Ouais.
Mais il y a encore des efforts à faire, mais on va y arriver.
Oui,
d'accord.
Moi, j'aurais juste une question après par rapport à...
Allez-y.
Parce que vous parliez du pain dur. Donc le pain dur se recycle quand même.
Oui, il se recycle en alimentation animale. C'est ce qu'on fait.
même au niveau quand même humain, parce qu'on peut quand même rebroyer le pain dur et en refaire des gâteaux. Moi, je connais le gâteau de pain quand même. Il y a quelqu'un là dernièrement qui a mis un poste qui avait l'air surpris de refaire des gâteaux avec
faire de
la chapelure et tout ça. Mais je dis, le gâteau de pain existe, enfin, ce qui est notre pudding français. Et puis maintenant, enfin moi je ne peux plus m'en faire puisque j'achète du pain bio et je le mange complètement. Donc plus de baguettes à durcir, donc je ne me fais plus de gâteau de pain. Je ne sais plus où trouver du pain dur.
Là il y a une question du coup par rapport au pain dur, que ça vous arrive donc d'avoir des invendus en fait principalement. Est-ce que vous arrivez à valoriser ces invendus autrement ?
Alors ces invendus au niveau du pain, c'est pas le plus compliqué le pain. Puisque le pain en fait on le laisse, il sèche. Donc ça va soit partir en sac de pain dur, on vend ça 2,50€, c'est histoire de donner un prix, voilà, un gros sac de pain dur.
Oui.
Donc les gens les donnent aux animaux, aux moutons, aux chevaux, aux lapins.
Oui, ou alors faut donner.
Voilà. Ensuite, on...
À la ferme des oliviers, par exemple, on a peut-être besoin.
Oui, voilà, c'est tout ça. Mais après, toute personne qui peut venir les récupérer, il n'y a aucun problème. Après, on a un agriculteur qui est chasseur, donc qui récupère tout le surplus. Donc on ne met rien à la poubelle, on ne jette rien.
D'accord.
Donc lui, il le donne aux sangliers, à la chasse, avec tout ça. Voilà, ça donnait comme ça au canard.
Mais moi, ce qui est bien, et puis si le message pourrait passer, c'est que nous avons une boulangerie Carrefour Médicis qui, comme vous dites, le pain de la veille, moi, ça me fait rire parce que quand on achète une baguette, on l'a peut-être sur 2 ou 3 jours. Et quand je vois qu'ils sont obligés de vendre à bas prix soit le pain de la veille ou la croissanterie, plutôt que de les jeter, j'achète... 2 chaussons aux pommes, 2 pains raisins et 1 croissant pour 2,50€, vous les mettez à 50 centimes, ils sont de la veille, mais qu'est-ce que vous en avez à fiche qu'ils soient de la veille, quoi. Parce que quand vous les achetez, vous pouvez les manger sur 2 ou 3 jours.
Question qu'on peut poser de façon globale sur le problème de la boulangerie, même de la boulangerie, on va dire, française.
Non, mais plutôt que de jeter, de vendre.
Tout ça, c'est un problème de consommation aujourd'hui.
Oui, tout
à fait. On est quand même, nous, en tant que Français, habitués à manger du pain frais, la baguette tous les jours, etc. Je dirais que c'est aussi une façon de consommer le pain. Et voilà, vous êtes bien placé pour le savoir.
Ah oui, tous les jours.
Voilà. Et puis, il faut avoir le matin la baguette à 7h qui soit cuite. Et puis, il faut avoir la fournée de l'après-midi. Et puis, si j'achète une baguette le soir qui est du matin, je le sens. Et je vais pas forcément retourner vers mon boulanger où je vais changer de crêpe.
Alors là, je vais pas faire de pub à la boulangerie. Enfin, si, mais vous achetez un pain d'épeautre que vous allez payer à 7€ du kilo. Vous en prenez une ou tranche par jour. Il vous dure toute la semaine. Il s'abîme pas.
On est d'accord.
C'est le système de consommation qu'il faut changer. Là.
Voilà.
Là, c'est plus le compost. Là, c'est autre
chose. Mais c'est réduction de déchets parce que
totalement. Non, mais
les gens achètent de l'épeautre. On pense payer plus cher. Une baguette, c'est en moyenne 1€, 1,10€ par jour.
La baguette, c'est viral encore aujourd'hui en France.
Vous allez le payer 7€ d'un seul coup. Je parle pour une personne, sûr. Hein. Mais au moins, en plus, vous n'allez pas tous les jours à la boulangerie. Donc, l'impact carbone, vous achetez votre pain pour la semaine. Comme avant, on achetait notre pain pour la semaine.
Il y avait une réflexion de monsieur Leclerc, ou une question peut-être ?
Oui, plutôt une réflexion pour rester sur le pain. Le pain en surplus, on peut le revendre à un prix intéressant, on peut le distribuer aux animaux. Mais quand même, il ne faut pas oublier que le pain, pour le faire, il faut le faire. Il y a une dépense énergétique derrière. Et c'est un peu dommage de voir une baguette qui a été façonnée tout d'un coup disparaître, ne serait-ce que pour les poules. Alors que je trouverais plutôt normal qu'à la fin de la journée, par exemple, quand on va chez le boulanger, il n'y a presque plus de pain. C'est-à-dire avoir un flux beaucoup plus tendu pour montrer qu'on fabrique quelque chose au quotidien, mais qu'à partir de 17h, 18h, il n'y en a plus. Ça veut dire habituer les personnes à un moment donné à aller chercher ce qu'il faut, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
Plutôt que de surproduire.
Je vais vous demander de venir le dimanche midi dans ma boulangerie d'expliquer ça à mes clients. J'adorerais.
Alors, au risque de vous, comment dire, de vous agacer, génial. Je peux vous dire qu'il y a certaines surfaces, et je ne vais pas les grandes surfaces, et je ne vais pas les nommer, mais qui ont rectifié le tir depuis quelques temps, parce qu'avant, ils avaient des surplus comme vous, et ils faisaient des sacs à 2, 1 euro. Et maintenant, ça n'existe plus, parce que tout simplement, ils ont. Vous arrivez le soir à 18h, mais il n'y a plus de pain dans le rayon.
Très bien. Je vous propose qu'on termine peut-être sur une question où éventuellement tout le monde va pouvoir répondre. Vous avez des pratiques de compostage qui sont toutes différentes. Pourtant, il y a quand même des points communs. Je ne sais pas quel point commun vous pourriez relever, vous, dans vos pratiques.
C'est la base. Tout ce qu'on met dans le compost, on ne va pas le mettre à la benne à ordures.
Voilà.
Ça peu importe dans quel système. Oui. Soit en entreprise, soit en tant que particulier, soit en tant que...
Il y a eu un avantage aussi, nous, qui n'est pas négligeable au niveau de la ville de Blois, parce qu'il faut quand même savoir que nous avions deux passages par semaine pour le ramassage des containers. Nous n'en avons plus qu'un. Et sans vanter, la rue Alfred Alou est presque sans déchets, parce qu'on avait sur presque toute la longueur, il y a les stop pubs. Et donc les camions, et même nous, les poubelles, parfois, moi ça m'arrive de la sortir qu'une fois tous les 15 jours. Enfin là, on a un petit peu plus d'habitants, donc des jeunes, et qui par contre ne savent, là je vais faire ma loi, parce qu'ils ne savent pas du tout trier, parce que notre bac déborde, alors que jusqu'à maintenant, nous, à un gros sac, on arrive à deux petits sachets, puisqu'on est dans la réduction de déchets.
Donc, il y a encore de l'éducation à faire auprès des plus
au
jeunes.
Au niveau les jeunes générations, les 25-30 ans, c'est très dur.
Nous, ce qui est intéressant dans notre démarche aussi au niveau de la boulangerie, c'est qu'on a beaucoup d'apprentis. Et quand on leur explique le tri sélectif, ce que c'est, déjà, ils le font après, peut-être chez eux, ou ils le feront plus tard. Mais aujourd'hui, ça fait partie d'un apprentissage, quoi. On a un jeune de 15-16 ans qui arrive, et chez lui, il ne va pas trier. On va lui expliquer qu'il faut trier le verre, les boîtes de conserve et le compost. Qu'est-ce que c'est que le compost ? Voilà, il y a une autre démarche aussi derrière tout ça.
Et quelque part, ce que vous venez de dire sur la taille des poubelles et le ramassage, ça rejoint aussi ça. C'est-à-dire que si la ville de Blois peut s'autoriser ou peut se permettre de passer un petit peu moins souvent, c'est parce qu'elle a aussi un objectif de réduction des déchets.
Et puis ça permet de desservir d'autres rues. Donc c'est depuis l'année dernière, il y a deux ans. Alors normalement, là je m'adresse à monsieur le maire, normalement notre taxe devrait diminuer puisqu'on a moins de passages.
Après, il y a aussi, un investissement autour de la communication, de la sensibilisation qui coûte de l'argent. Et notamment qui coûte du temps de la part d'agents qui sont rémunérés par la collectivité. Donc quelque part, si on veut qu'il y ait une réduction de la taxe...
Le but, c'était qu'on paye moins de taxe ordurière.
Ah mais mais on est d'accord.
C'était annoncé dans Bloomag ou je ne sais plus. Mais normalement, oui.
Le message est passé.
On compte sur Marc Gricot pour tenir ses promesses.
Monsieur Bakayoko.
Un autre avantage aussi à notre niveau en tant que bailleur social, c'est que non seulement nous avons réussi à fédérer pas mal de personnes qui viennent de différents horizons, mais aussi nos personnes âgées qui ne sortaient presque pas de chez elles le plus souvent. Aujourd'hui, nous les voyons sortir pour aller au compost et ça les intéresse. Et nous aussi, ça nous fait plaisir de voir que nous avons mis quelque chose en place qui fait que des personnes arrivent à sortir régulièrement de chez elles et ça a donné à quelque chose.
Oui, d'accord. Oui, l'échange, le lien, l'éducation, quelque part, la citoyenneté, quel que soit son âge, aussi par cette initiative.
Ça crée du lien et tout ça. Et moi, je voudrais juste dire une toute petite dernière chose, toujours par rapport à la boulangerie. Quand j'ai entendu, parce que quand on voit tous les sacs papier qu'on nous donne pour donner les baguettes, mais fut un temps, on avait tous notre sac en tissu. Hein, j'ai un bon demi-siècle, mais moi j'allais à la boulangerie avec le sac à pain en tissu.
C'est ça.
Donc il serait bien,
au
niveau de du papier.
On fait des cadeaux. Donc
voilà, donc les gens, ça serait bien qu'ils se confectionnent
leur
sachet
tissu. Mais c'est pareil, les gens ils l'oublient.
Même vous, à votre niveau, je pense, au niveau économique, parce qu'il faut les acheter. Oui, puis nous, on les rejette, on les recycle. Donc le sac à pain, il faudrait qu'il soit remis en vente dans...
Tout le souci, c'est vraiment une...
Ou même chez, dans les boulangeries.
Le consommateur change. Des fois, on fait des essais, on supprime complètement l'emballage. On se dit, tiens, aujourd'hui, on va essayer de vendre sans emballage pour avoir un retour des clients. Mais c'est impressionnant de voir les gens, quand ils viennent, on leur donne une baguette sans emballage et tout de suite, ils vont dire, ah ben non, il me faut un emballage, j'ai les mains sales, j'arrive du travail. Ah ben non, je peux pas la prendre comme ça.
Mais avant, on faisait bien.
Et oui.
Oui, Madame Jeannin, oui. Une petite réflexion aussi.
Je voulais parler de la revalorisation. Ce sont des déchets que nous mettons.
Oui.
Au lieu de partir à l'incinération, on en fait un produit riche qui va nous permettre de produire autre chose. Des fleurs, des légumes, enfin, voilà.
On a une valeur ajoutée en faisant le compost.
Voilà, il y a une valeur ajoutée à un déchet.
Et du coup, vous avez la parole, je vous laisse. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure du compost ? Par quoi commencer ? Quelque chose de simple à faire,
Ça dépend à quel niveau, si c'est au niveau personnel ou si c'est au niveau collectif ou professionnel. Les problématiques sont complètement différentes.
D'accord, non mais par exemple...
Si vous avez un petit coin de jardin, vous pouvez avoir un bac à compost. Si vous n'avez pas de coin de jardin, si vous êtes en appartement, vous pouvez avoir un lombricomposteur.
C'est aussi l'intérêt. Oui, et même en copropriété, un composteur collectif, voilà. Où tout le monde peut aller s'approvisionner, où tout le monde peut aller déposer ses épluchures et où tout le monde, après, peut aller récupérer du compost pour mettre dans ses pots de fleurs ou pour mettre dans ses jardinières.
Alors, est-ce que peut-être quelqu'un autour de la table aurait un conseil à donner à quelqu'un, à un auditeur qui, voilà, quel qu'il soit d'ailleurs, voudrait se lancer dans l'aventure, où trouver les informations, vers qui aller, ce genre de choses.
Directement Valeco.
C'est Valeco. Enfin, ils vont être un peu submergés. Valeco Fanny, elle a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Oui, mais bah, après, bon, bien sûr, avec, s'il y a des auditeurs qui ont entendu ce que nous venons de partager, on peut le faire soi-même. Hein. On peut créer soi-même son bac à compost avec des palettes. Et puis, si on suit ce qu'on vient de dire, jeter des déchets, mettre des feuilles dessus. C'est très simple. Hein. Les gens, avant, n'avaient pas besoin de cette communication pour pouvoir faire...
Oui, c'est peut-être pas aussi simple que ça à réussir au niveau individuel.
Mais pourquoi ?
Eh bien, parce que vous deviez recevoir une personne qui avait un composteur individuel pour qui ça n'a pas marché.
Après, je pense que ça, c'est toujours intéressant d'avoir de l'information. Et voilà,
moi, je vais reparler de mon fameux tas de fumier quand j'étais
comme nous,
jeune.
Quand on commence avec tout ça. Après, c'est toujours un problème de gestion. Quand on ne s'y connaît pas du tout en compost, si on met que des matières sèches à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Ah, voilà. Si on met que des matières humides, si on met que du gazon, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut savoir que c'est vraiment un savant mélange, un compost. Donc, pour avoir ces informations-là, on peut aller soit sur Valeco, soit sur Internet. On peut quand même trouver quand même pas mal d'informations. Oui. Puis demander aux gens qui ont des composteurs et puis leur demander des conseils aussi directement. Mais il faut, c'est quand même pas super facile au début, mais on prend vite le coup et après, c'est même un plaisir, quoi. Même de réutiliser et puis de voir le gain qu'on peut avoir derrière. C'est-à-dire que de pas acheter un sac de terreau, d'aller dans son composteur, récupérer le terreau, de mettre dans ses fleurs, et de se dire ça ne m'a rien coûté, j'ai pas été acheter un sac de terreau et j'ai réutilisé mes déchets, déjà rien que là. Enfin, je trouve que c'est une satisfaction personnelle.
Très bien. Ben, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, c'est une très bonne conclusion. Merci à tous pour votre participation et pour les échanges qu'on a eus sur cette question. Voilà, nous on arrive bientôt, il est 17h30 déjà, hein, on a tenu longtemps pour un sujet qui amène de l'échange et de la discussion, du débat. Moi, je vous propose qu'on dise au revoir aux auditeurs aussi de la radio. On a passé une journée ensemble à parler réduction des déchets, récupération et réduction des déchets alimentaires aussi. Merci à tous, merci à Valeco, à l'Aglopolis de nous avoir fait participer à cette journée. Vous pouvez retrouver tous les plateaux de la journée dès la semaine prochaine sur le site de la radio studiozef.fr. Donc en podcast, vous pourrez réécouter et télécharger les différents échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Moi je vous dis bonne soirée et au revoir.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Composter, valoriser, réparer, créer, ne pas gaspiller. Zéro déchet.
La fête de la récup, c'est sur Studio Zef.